Chapitre 19. Je suis ton serviteur, ton transporteur. Jouis de ton séjour en moi. Je suis le fils de la gardienne de la porte, un semeur de vie. Je vole à des allures vertigineuses, à travers l'immensité. Une vitesse 10, 20, 30, 100 000 fois supérieure à celle de la lumière. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne sens pas, je ne touche pas, je ne goûte pas, mais je chante et resplendis de clarté. Et mes concentrés de lumière, mes cristaux, brillent d'un éclat supérieur à l'éclat des plus grandes étoiles. Jouis de ton séjour en moi. J'ai été conçu pour servir. Chant du Xaxas, Bible américaine de Cheyenne II. Les migrateurs célestes affluaient de tous les points cardinaux et convergeaient par milliers vers le cirque des pleurs. Les innombrables colonnes à l'incomparable éclat bleu-vert qui tombaient des nues étaient les piliers d'un temple majestueux et infini. La température avait brusquement grimpé de plusieurs dizaines de degrés et, par endroits, des flaques d'eau parsemaient la croûte glaciaire. Dominant les bruissements d'ailes, retentissaient des sons étranges, des cris, des vibrations prolongées qui produisaient d'envoûtantes harmoniques. Les Xaxas avaient déployé leurs ailes à la phénoménale envergure, des membranes souples et translucides, reliées à de longues et fines excroissances qui ressemblaient à des mâts de navires à voile. Ils dérivaient paresseusement au-dessus des colonnes de lumière. Certains étaient immenses, plus de 30 mètres de longueur. Les autres mesuraient entre 4 et 15 mètres de la tête en forme d'obus à la queue en éventail. Les cristaux incrustés dans leur carapace brun-rouille, sillonnés de traînées rougeoyantes, criblés de particules enflammées, jetaient d'éblouissantes lueurs bleues ouvertes. Marty s'était relevé et contemplait ébahi l'incroyable ballet des migrateurs célestes. Il avait abandonné Jacques dans la neige. L'autre n'avait plus besoin des pouvoirs d'humain source du petit Anjorien et pouvait donc sans regret. Regret était un terme impropre. Il s'agissait plutôt d'une certitude d'avoir négligé une probabilité. Le laisser mourir de froid sur son matelas blanc. San Francisco, Phoenix, l'un allongé sur l'autre et Robin étendu les bras en croix sur la glace, ne bougeait pas davantage que Jake. La peau naturellement brune des deux Gersalémines virait à présent au blanc cassé et contrastait de plus en plus avec le noir mat de leur chevelure. Les mouvements ralentis, à peine perceptibles, de leur poitrine indiquaient qu'ils respiraient encore mais qu'ils n'en avaient plus pour longtemps à vivre. Marty jeta un coup d'œil aux oursigres sauvages regroupés au pied de la paroi. Ils achevaient de déchiqueter à coups de dents et de griffes les gardes gersalémines qui avaient eu l'imprudence de jeter leurs fusils à propagation lumineuse, de se dévêtir et de descendre au fond du cirque. Les fauves à la blanche fourrure avaient subitement infléchi leur course et s'étaient dirigés au grand galop vers les nouveaux arrivants comme si ces proies vivantes et chaudes les avaient détournés de leur dessein initial. Marty observa pendant quelques secondes les pattes griffues et les crocs marbrés de sang qui arrachaient des quartiers entiers de viande, qui se disputaient les têtes, les viscères, les organes. L'autre avait décelé autre chose qu'un simple instinct animal dans le fait que les oursigres avaient totalement négligé les condamnés, les premières proies offertes à leur convoitise, et s'étaient jetés sur les gersalémines. Il y avait eu une manifestation des pouvoirs d'humain source de Jack. Probabilité 85%. 20 mètres plus haut, il aperçut les silhouettes grises des gardes princiers restés sur le bord de la dépression. Ils avaient épaulé leurs fusils, mais n'osaient pas tirer, de peur de toucher leurs compagnons. Ils contemplaient horrifiés les corps dépecés, les mufles barbouillés, la neige et la glace maculée de sang, puis leurs regards extasiés se portaient sur la forêt de colonnes scintillantes, sur les arabesques aériennes, gracieuses et chantantes des Xaxas, les animaux fabuleux annoncés par les versets prophétiques de la Nouvelle Bible de Jérusalem. Ils pourraient raconter à leurs parents, à leurs femmes, à leurs enfants qu'ils avaient assisté au passage des migrateurs célestes, et leurs paroles entretiendraient la légende de l'espoir pendant 80 nouveaux siècles. Les plus grands des Xaxas s'introduisaient à l'intérieur des colonnes de lumière et, avec une lenteur et une légèreté surprenantes pour des créatures de ce gabarit, se posèrent sur la glace du cirque. Dès qu'ils atterrissaient, ils redevenaient les animaux pataux et maladroits que laissait supposer leur apparence. Leurs cristaux cessaient de briller et leurs ailes se repliaient le long de leurs flancs. Ils rampaient avec difficulté sur la croûte glaciaire, sortaient du cercle bleuté avant de s'immobiliser, couchés sur le ventre, comme si, êtres d'essence céleste, ils étaient épuisés par le moindre mouvement sur les mondes régis par la gravité. Dès qu'ils s'étaient extraits des colonnes, d'autres de leurs congénères s'y engouffraient, descendaient au ralenti, comme soutenus par une invisible plateforme à l'intérieur d'un tube transparent. Peu à peu, le cirque des pleurs se couvrit entièrement de grandes masses brunes. Ils n'atterrirent pas tous, des milliers restèrent suspendus dans les airs, occultant les rayons des farfadets, et le bruissement de leurs ailes composait un fond sonore lancinant, ponctué de notes graves ou aiguës. Marty s'avança prudemment vers le Xaxas le plus proche de lui, un animal d'une taille moyenne dont la carapace, légèrement fumante, s'ornait de traces noires comparables à des taches de suie. L'autre avait enregistré toutes les données qui concernaient l'introduction dans le corps des migrateurs. Il fallait d'abord localiser l'orifice situé sous le ventre, près de la queue, quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à l'anus des humains ou des animaux terrestres. Lorsqu'en seraient sortis les premiers parasites, les chrysalides venus d'un autre monde, Marty ne disposerait que de quelques secondes pour se faufiler dans le conduit et atteindre le compartiment intérieur, l'endroit où le Xaxas, adaptant instantanément son métabolisme à son nouveau passager, offrirait eau et oxygène en quantité suffisante jusqu'à la prochaine escale. Serait-ce terra mater, les probabilités, bien qu'ayant légèrement progressé, ne donnaient encore qu'un faible 18%. Pour l'instant, Marty n'entrevoyait aucune possibilité de pénétrer dans le migrateur, mollement vautré sur la glace et dont le poids interdisait toute tentative de se glisser sous sa carapace. Il fit le tour du monstre, dénomination qui venait spontanément à l'esprit du Marty encore humain, mais ne décela pas davantage d'orifice ou de passage de l'autre côté. Il examina alors plusieurs de ses congénères figés, comme en attente de quelque mystérieux signal. Peut-être s'était-il tout simplement posé sur Jérusalem pour y mourir. N'était-ce pas l'explication des trois migrateurs congelés dans la muraille du cirque du Golan dont avait parlé Phénix? L'autre n'avait pas pris cette éventualité en compte. Mais à présent, devant l'inertie totale des masses brunes échouées sur le cirque des pleurs, comme un troupeau décimé, il devait inclure ces données dans ses calculs de probabilité. Aucune palpitation, même ténue, n'agitait les carapaces. Était-ce une suspension, définitive ou provisoire, de leurs fonctions respiratoires ou bien, même pendant leur séjour sur les mondes habités, restaient-ils gouvernés par d'autres lois physiologiques? Marty, obéissant aux injonctions de l'autre, traversa une colonne de lumière brûlante, contourna le corps d'un Xaxas et détailla sa tête. Proue aurait été un terme plus approprié. Et sous les replis annelés, il ne distingua aucun œil, aucune oreille, aucune narine, aucune bouche, aucune ébauche de museau, aucune de ces multiples cavités dont sont naturellement pourvus les animaux planétaires. Il avait une allure générale d'oiseau, de pachyderme volant plus précisément, mais ne présentait aucune conformation extérieure qui trahît une quelconque activité sensorielle. De guerre lasse, l'autre choisit de maintenir l'aiguillage initial et opta pour un véhicule spatial d'une longueur de 20 mètres, dont la carapace, plus propre et lisse que celle de ses congénères, lui inspira confiance. Un commencement de fonctionnement irrationnel. Il s'accroupit à proximité de la queue et attendit. Des traînées incendiaires se diffusèrent dans les veines, dans les muscles, dans les organes de Jack. Sortir d'un engourdissement était nettement plus douloureux que d'y entrer. La vie semblait tellement impatiente de réinvestir son territoire qu'elle s'y répandait en conquérantes barbares, certaines de sa victoire. De nouveau, le petit Anjorien sentit les morsures du froid qui, contraint de reculer, se montrait particulièrement féroce. Des sons à l'étrange beauté résonnaient au-dessus de lui. La douleur se fit tant cuisante qu'il entr'ouvrit les yeux. Il se rendit d'abord compte qu'il n'était allongé ni sur Marty ni sur la neige, mais qu'il baignait dans une flaque d'eau froide. Puis il crut que la nuit était tombée sur le cirque des pleurs. Une illusion qui ne dura que quelques secondes, le temps que son regard embrasse les somptueuses colonnes de lumière bleue, les formes sombres et bruissantes qui couvraient le ciel, les masses imposantes allongées à quelques pas de lui, les fourrures maculées de sang des ours igres, les silhouettes grises alignées sur le bord de la dépression. Il ne sentait pas encore ses extrémités gelées, mais son cerveau, jusqu'alors prisonnier du froid, se remit à fonctionner à plein. Il prit conscience que les migrateurs avaient atterri pendant son engourdissement. Une chaleur intense régnait désormais sur le cirque. Elle provenait probablement des colonnes de lumière et des carapaces fumantes des Xaxas. Jack se redressa, mouvement qui provoqua un afflux brutal de sang dans ses veines, une recrudescence de la douleur vive, insupportable. À côté de lui gisaient San Francisco et Phoenix, enlacés, et au second plan, Robin, dont les cheveux gris étaient recouverts d'un givre luisant. Marty avait disparu. Il n'y avait plus de temps à perdre. Lorsque les Xaxas auraient libéré les chrysalides, ils décolleraient immédiatement et s'envoleraient vers leur nouvelle destination. Ce serait peut-être un monde inconnu, hostile, mais de toute façon préférable au froid mortel du cirque des pleurs. Il se releva, le sang ne lui parvenait pas encore jusqu'aux pieds, et il eut l'impression de se percher sur du vide, ou sur des extrémités qui ne lui appartenaient pas, ce qui revenait quasiment au même. Il s'effondra comme un animal nouveau-né, aux membres fragiles et fuyants. 5 bonnes minutes lui furent nécessaires pour maîtriser la station debout. Les plus petits des Xaxas mesuraient facilement 2 mètres de haut. Il douta quelques secondes de la réalité de leur existence. Leur immobilité avait quelque chose d'illusoire, d'onirique. Ils évoquaient les chiens-lions en matière synthétique, figés pour l'éternité qui ornait les allées du parc cinégétique d'Anjor. Le clair-obscur, les colonnes à l'éclat bleu-vert et le mystérieux cœur homophonique qui provenait de l'espace renforçaient l'impression de Jack d'évoluer dans un rêve. Seuls les milliers de migrateurs qui continuaient de planer quelques dizaines de mètres au-dessus du cirque paraissaient réels, vivants. Le petit Anjorien tenta d'abord de ranimer San Francisco. Il employa la même méthode qu'il avait utilisée sur lui quelques minutes plus tôt. Il lui gifla, du plus fort qu'il put, la nuque, les épaules et le dos. « San Frisco !» Les coups qu'il donnait lui faisaient davantage de mal à lui-même qu'il n'avait d'effet véritable sur la peau durcie du prince des Américains. Chaque fois que sa main s'abattait sur le corps du Gersalémine, une lance cuisante lui perforait tout le flanc.
« San Frisco !»
Il le frappa encore pendant 10 minutes, à un an, ponctuant ses gestes de cri, surveillant les Xaxas du coin de l'œil. San Francisco ne remuait toujours pas, mais il sembla à Jack que sa poitrine se soulevait de manière plus ample et plus rapide. Alors, malgré la douleur, malgré la fatigue, il continua de cingler le large dos sur lequel ses petites mains produisaient des stries rosâtres.
« San Frisco !»
Un long et puissant mugissement tomba tout à coup des cieux. Un son qui tenait à la fois du signal d'alarme et du gémissement nostalgique d'une violine traditionnelle du djen. Les migrateurs qui planaient au-dessus du cirque battirent frénétiquement des ailes, s'agitèrent dans tous les sens, poussèrent des hurlements stridents comme pour prévenir leurs congénères posés sur le sol de l'imminence du départ.
« San Frisco, réveille-toi, réveille-toi !»
Jack ne pouvait se résoudre à abandonner au froid de Jérusalem, San Francisco, Phoenix et Robin, les seuls adultes qui lui avaient apporté leur aide sans exiger de contrepartie. Paniqué, ne sachant plus que faire, il empoigna San Francisco par les cheveux et tira vers lui de toutes ses forces. La tête du Gersalemin se décolla de l'épaule de Phénix dans un froissement d'étoffe déchirée. Des lambeaux de sa joue et de sa pommette restèrent collés sur la peau de la jeune femme, dont les traits détendus donnaient à penser qu'elle dormait d'un sommeil paisible. Les Xaxas environnants commencèrent à remuer, à se coucher sur le flanc pour dégager leur abdomen, légèrement plus clair que le reste de leur corps. Ils se mouvaient avec une extrême lenteur, comme à l'intérieur d'une masse liquide. Le regard affolé de Jake papillonna sur les larges ventres brun clair dressés presque à la verticale, puis revint se poser sur la nuque de San Francisco.
« Réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi !»
Il lui tira la tête en arrière par à-coups, au risque de lui briser les vertèbres cervicales.
« Réveille-toi !»
Des sanglots s'étranglaient dans sa voix. Il repéra des taches sombres à l'extrémité des abdomens des migrateurs, juste à la naissance de la queue. Saisi d'un accès de rage, dans un état second, il grêla de coups de poing la nuque et les omoplates de San Francisco, lui arracha des lambeaux de peau avec ses ongles. La chaleur ambiante et sa propre agitation le couvraient d'une pellicule de sueur. Il pataugeait dans une neige molle pratiquement liquide, sentait sous la plante de ses pieds la couche supérieure lisse de la croûte glaciaire. L'éclat des colonnes de lumière se fit aveuglant. Jake distingua nettement les bords froncés des orifices ventraux des Xaxas. Ils achevaient de se dilater et atteignaient désormais un diamètre de 50 à 60 centimètres. Des vagues ondulantes, convulsives, parcouraient les abdomens sur toute leur longueur.
« San Frisco ! San Frisco !»
Des tremblements agitèrent les membres du Gersalemin. Galvanisé, le petit Anjorien refoula le désespoir qui s'emparait de lui. Continua de labourer la peau blême à coups d'ongles furieux. Des gouttes de sang épaisses, visqueuses, perlèrent des multiples égratignures qui sillonnaient le dos et les épaules du prince des Américains. San Frisco se retourna comme s'il émergeait d'un long sommeil et qu'il cherchait à se débarrasser de l'invisible intrus qui le harcelait. Ses paupières se soulevèrent et ses yeux vitreux glissèrent sur Jake sans le voir.
« Les Xaxas, ils sont là !»
hurla le petit Anjorien en secouant énergiquement l'épaule du Gersalemin.
« Ils vont repartir !»
Des pointes blanches apparurent au centre des orifices, puis des formes oblongues, luisantes, fumantes, glissèrent silencieusement sur la glace. De nombreuses fissures parcouraient les enveloppes rigides, ovoïdes des chrysalides.
« Les Xaxas !»
San Francisco ne réagissait toujours pas. Poussé par une subite impulsion, Jake plongea la main entre les cuisses du Gersalemin. Ses doigts lui agrippèrent et lui pressèrent violemment la base du scrotum et du pénis. La consistance à la fois molle et résistante des organes sexuels de San Francisco ne provoqua aucune répulsion en lui. Il comprenait d'instinct qu'ils dispensaient la vie, qu'ils étaient donc des centres majeurs d'énergie.
« Tu verras qu'un jour, ton petit robinet te servira à me fabriquer des petits-enfants »,
avait déclaré Patskin l'œil coquin. Jake n'en avait pas encore le mode d'emploi, mais il pressentait que le robinet entrait pour une bonne part dans les affrontements d'amour entre les hommes et les femmes. Il ne relâcha pas sa pression. La peau et la chair se gorgeaient de sang, se comprimaient, se durcissaient sous ses doigts. Une lueur s'alluma dans les yeux de San Francisco. Il redressa la tête et contempla le cirque des pleurs, les Xaxas couchés sur le flanc, les chrysalides ébranlées par de fortes trépidations.
« Jake !»
Le petit Anjorien retira sa main du bas-ventre du Gersalemin.
« Les Xaxas, vite !» dit-il précipitamment. « Ils ont expulsé les parasites. Il ne reste que quelques secondes. »
Un voile se déchira dans l'esprit embrumé de San Francisco. Il recouvra en partie la mémoire et prit conscience de l'urgence de la situation. Il secoua ses jambes et ses bras pour rétablir la circulation sanguine, puis, sans tenir compte des épines enflammées qui grimpaient à l'assaut de son corps, se pencha sur Phénix, qu'il gifla à toute volée. Les cocons cédèrent sous les poussées désordonnées de leurs occupants. Les éclats aux bords acérés se fichèrent dans la glace.
« Phénix ! Phénix !»
Jake se précipita vers Robin et, puisque la méthode avait parfaitement fonctionné avec San Francisco, procéda de la même manière avec le vieux Syracusain. Les papillons émergèrent peu à peu des cocons brisés. Des milliers de lueurs vives embrasèrent soudain le clair-obscur qui ensevelissait le cirque des pleurs. Des milliers de flammes dansantes qui n'étaient rien d'autre que les ailes de feu déployées et vibrantes des grands lépidoptères perchés au sommet des cocons.
Leurs corps étaient eux-mêmes composés d'une matière crépitante qui ressemblait à de la lave en fusion et qui, à chacun de leurs mouvements, semait des panaches d'étincelles tout autour d'eux. Leurs deux antennes transparentes et flexibles ondulaient au gré des souffles d'air. Émerveillé par ce fabuleux spectacle, Jack éprouva les pires difficultés à s'arracher à sa contemplation et à se concentrer sur ce qu'il était en train de faire, à savoir étrangler le petit robinet et les petits réservoirs tout ronds et tout mous, autre expression creudienne de Manhattan, d'un vieil homme gelé, étendu dans la neige semi-fondue. Il ne décelait aucune palpitation sur la peau de Robin, d'une teinte légèrement bleutée. Les papillons de feu prirent simultanément leur envol, formèrent une spirale ascendante dont le bord supérieur alla sans cesse s'élargissant. La nuée de migrateurs célestes s'écarta pour les laisser passer. Les papillons se divisèrent alors en quatre groupes, en quatre spirales plus petites, qui se dirigèrent chacune vers un farfadet, vers l'un des quatre astres solaires dont ils semblaient être les fils naturels. Phénix reprit progressivement conscience. Comme cela s'était passé pour San Francisco, des tremblements convulsifs secouèrent d'abord ses membres, puis, après une nouvelle série de gifles appuyées, elle releva la tête et entr'ouvrit les yeux.
« Les Xaxas sont là !» hurla San Francisco. « Ils vont se refermer dans une poignée de secondes !»
Encore trop faible pour parler, elle hocha la tête pour montrer qu'elle avait compris. Une mince couche de givre collait ses longs cheveux noirs sur ses épaules, sur ses omoplates, sur ses seins, sur ses hanches. Les becs grouillants et chauffés à blanc qui lui picoraient l'intérieur du corps lui soutirèrent des grimaces, des larmes. Elle se secoua pour se débarrasser des ultimes lambeaux de léthargie qui entravaient ses mouvements. Elle tenta ensuite de se relever, mais de la même manière que Jack quelques minutes plus tôt, ses jambes insensibilisées se dérobèrent sous elle et elle s'effondra dans la neige molle. Cette fois-ci, elle refusa de céder à l'appel doucereux du froid. Elle se redressa immédiatement et sautilla sur place pour réactiver la circulation sanguine. Jack vit avec effroi osciller les masses brunes des Xaxas. Il fut tiraillé entre le désir de sauver Robin et l'envie pressante, instinctive, de foncer vers un migrateur et de plonger dans son orifice ventral. Sans même qu'il s'en rende compte, ses doigts se desserrèrent, relâchèrent leur pression. Les papillons n'étaient plus que deux minuscules taches brillantes à l'horizon. Des nuages enflammés qui s'étiolaient dans l'azur du ciel. San Francisco vint mettre un terme au dilemme du petit angeorien. « Je m'occupe de Robin, prince des hyènes. » Jack hésita, conscient du sacrifice du Gersalémine. Encore un qui se sacrifiait pour lui. Mais Phénix, désormais tout à fait lucide, lui saisit le poignet et l'entraîna de force vers le Xaxas le plus proche, un animal de 10 mètres de long dont la carapace fuligineuse s'affaissait au ralenti sur le ventre. Le cocon qu'il avait expulsé était nettement moins volumineux que ceux qui gisaient à côté de ses congénères. On aurait dit qu'il avait accouché d'un être chétif, malingre. Phénix poussa Jack vers l'orifice ventral.
« Rampe, une fois dans le compartiment, reste immobile. »
Pour la jeune femme, le simple fait de parler représentait une véritable torture. Des gouttes de sang perlèrent de ses lèvres déchirées. Une peur soudaine étreignit Jack devant l'orifice au bord distendu et froncé, devant cette bouche hideuse qui devait le gober. Il ne pourrait pas respirer à l'intérieur du Xaxas. Il n'y avait aucune fenêtre, aucun hublot, aucun tuyau d'aération comme dans le Papiduc.
« Vite !» dit Phénix. « Par la tête !»
Jack se rendit compte que la masse du migrateur était sur le point de s'abattre sur lui, mais ses jambes tétanisées refusèrent d'avancer. S'enfoncer comme un suppositoire dans le trou du cul de ce monstre, c'était aller vers une mort certaine, une horrible mort par étouffement.
« Je ne peux pas, je ne peux pas !»
balbutia-t-il. Phénix s'aperçut que la peur paralysait le petit Gok qui ne s'était jamais préparé à affronter ce genre de situation.
« Calme-toi, Jack, tout se passera bien, »
dit-elle d'une voix posée et rassurante, négligeant les épingles qui lui perforaient les lèvres.
Il te fournira tout l'air dont tu as besoin. Il te suffira de t'allonger, de recueillir de temps en temps des gouttes d'eau au bout de tes doigts et de t'en humecter la langue. Tu ne risques rien. C'est un ami, ton ami. »
Tout en parlant, elle l'avait pris par les épaules et poussé vers l'orifice. Rasséréné par la douceur de sa voix et par la chaleur qui se dégageait de ses paumes, le petit Angerien introduisit la tête dans la sombre cavité. Il fut instantanément plongé dans une obscurité opaque, odorante, suffocante. Lorsqu'il sentit le conduit de chair molle et tiède lui enserrer le crâne, les joues, le menton, le cou, il fut submergé par une nouvelle vague de panique, remua frénétiquement les bras et les jambes encore libres pour tenter de ressortir. Mais Phénix lui agrippa les fesses et l'en empêcha jusqu'à ce qu'un liquide visqueux lubrifie le conduit et qu'une puissante contraction interne du Xaxas le happe tout entier. Si les migrateurs célestes utilisaient leur conduit et leur orifice pour expulser leurs passagers, ils s'en servaient également pour attirer et capturer de nouveaux parasites. Leurs organes étaient conçus en fonction de leur rôle, qui était de transporter des êtres vivants d'une étape à l'autre, d'un monde à l'autre. Le corps de Jack fut englouti dans le boyau obscur, humide et chaud. Une odeur fétide, une odeur d'insectes écrasés, lui agressa les narines, et un goût de fiel lui inonda le palais. L'air commença à lui manquer, mais, au lieu de tempérer sa respiration, il la précipita, il haleta, il s'asphyxia. Affolé, terrorisé, incapable de réfléchir, il voulut repartir en arrière, planta ses ongles dans la gangue de chair malléable, mais en pure perte. Les contractions rapprochées le halaient inexorablement vers l'intérieur du Xaxas. Un tourbillon d'images se leva dans l'esprit du petit Angerien. Il entrevit fugitivement les spectres de Pa et Man Hatskin. « Pa, Man, votre fils unique va mourir dans le ventre d'un monstre de l'espace. » Il discerna le corps déformé et agonisant du vieil Arthrarak. « Arthrarak, tu m'as expédié dans un endroit bien pire que l'enfer des Crodziens. » La barbe blessante du sorcier Besmor, le visage à la fois doux et sévère du viduc Papyronda, son père de l'espace, la face ratatinée de Yemata, la naine aux ongles meurtriers. Ses poumons et sa peau réclamaient de l'air, son cœur lui martelait douloureusement la cage thoracique. Un dernier spasme, plus violent que les précédents, le projeta brutalement vers l'avant. Il roula sur lui-même et se retrouva allongé sur un plancher moite et palpitant. Il tendit les bras au-dessus de sa tête. Ses mains ne rencontrèrent que le vide. Il ne voyait absolument rien, mais il était libéré de la pression désagréable et étouffante du conduit. Ce nouvel endroit proposait un minimum d'espace vital. Peut-être était-ce le compartiment intérieur dont avait parlé Phénix. L'étau qui lui comprimait la poitrine desserra progressivement ses mâchoires, et il respira à peu près normalement. La puanteur était toujours aussi répugnante, mais il commençait à s'y faire. Il lança de nouveau ses mains à l'aventure. Il palpa sur les côtés des sortes de membranes poreuses et souples qui se gonflaient comme les joues de Patskin lorsqu'il présentait son jardin à ses invités. De subtils courants d'air frais lui caressèrent la pulpe des doigts. Le plancher palpitant lui épousait étroitement la nuque, le dos, les fesses et les jambes. Apaisé, il se demanda si San Francisco, Phénix et Robin avaient eu le temps de pénétrer dans leur véhicule spatial avant qu'il ne se soit complètement rabattu sur le ventre. Il ne tenait pas à se retrouver seul sur la Jérusalem de lumière ou sur tout autre monde où l'expulserait le migrateur céleste. Et puis, c'était sans conteste la principale raison de son anxiété, il ne voulait pas que ses amis meurent de froid sur ce minuscule satellite gelé. Les deux Gersalémines et le vieux Syracusain méritaient autant que lui de vivre. Curieusement, il n'était pas inquiet au sujet de Marty, ce grand frère qui l'avait renié dans le bureau de Yemata. Il pressentait que le monstre caché du jeune Syracusain recelait d'insoupçonnables ressources. Une douce euphorie pénétrait par les pores de sa peau, se déposait dans chacune de ses cellules. Il flottait entre rêve et réalité, aussi léger que l'air. Il lui sembla percevoir un mouvement, un chuintement non loin de sa tête. Il écarta les bras, mais ne heurta rien d'autre que les sacs d'oxygène tendus à rompre et les parois souples du compartiment sur lesquelles perlaient des gouttes d'eau fraîche. Le métabolisme de son véhicule spatial avait fini de s'adapter aux besoins de son passager humain. Jack se sentit légèrement ballotté, comme à l'intérieur d'une nacelle de foire. Il entendit des sons mélodieux, à la fois proches et lointains, à la fois étranges et familiers, qui lui ravirent l'âme. Les gardes de Gersalemine auraient tellement de choses à raconter aux quatre grands abîmes, aux 39 princes, à leurs frères de tribu, à leurs familles, qu'ils ne sauraient pas par quoi commencer. Le spectacle qui s'était joué 20 mètres sous eux avait été extravagant, incroyable, inouï. D'immenses papillons aux ailes et aux corps de feu avaient brisé les cocons expulsés par les Xaxas et s'étaient envolés vers les quatre farfadets, comme pressés d'aller se jeter dans la lumière brûlante des astres solaires. Les condamnés, dont 4 avaient paru définitivement gelés, avaient repris connaissance l'un après l'autre. L'enfant Gok, en théorie le moins résistant, s'était relevé le premier et avait ranimé le prince des Américains en lui tordant les bourses. San Francisco avait fait revenir Phoenix à elle et, pendant qu'il s'occupait du vieux Gok, la jeune femme avait poussé l'enfant vers l'orifice sacré d'un Xaxas. Puis, sur l'ordre de San Francisco, elle s'était glissée à son tour dans le ventre d'un migrateur céleste. Le prince des Américains avait ensuite chargé le vieux Gok toujours inerte sur ses épaules, l'avait enfourné d'autorité dans un orifice sacré et avait tout juste le temps de plonger sous une carapace avant qu'elle ne se soit complètement abaissée. Les gardes avaient vu disparaître les jambes de San Francisco, écrasées par la masse brune, et ils avaient entendu ses os craquer. Les cristaux sertis dans les carapaces s'étaient remis à étinceler, à jeter leurs chatoyants éclats. Les colonnes de lumière s'étaient dissoutes, les Xaxas avaient déployé leurs ailes membraneuses et s'étaient élevées avec une lenteur majestueuse au-dessus de la glace, abandonnant des mares d'eau dans les lits qu'avaient creusé leur poids. Ils avaient poussé de longs cris, empreints de tristesse, de nostalgie. Savaient-ils qu'ils ne reverraient pas cette terre avant 8000 ans? Vivraient-ils encore 8000 ans? Étaient-ils régis par les lois du temps? À vigoureux coups d'ailes, ils s'étaient fondus dans la nuée de leurs congénères qui les attendaient, puis, progressivement, étaient devenus de simples points noirs à l'horizon. Un voile bleu pâle et uniforme s'était de nouveau tendu sur la voûte céleste. La température avait chuté tout à coup de plusieurs dizaines de degrés. Les mares d'eau laissées par les migrateurs s'étaient gelées. Des milliers de cocons brisés et des fragments de cadavres éparpillés jonchaient la glace du cirque des pleurs. Les oursigres, repus, avaient regagné leur tanière. Pendant plus de 2 heures, les gardes pétrifiés s'avérèrent incapables de bouger, d'articuler le moindre son. Ils tremblaient de froid, de désespoir également, en dépit de leur chaude combinaison de laine et de leurs bottes fourrées. Ils avaient conscience d'être passés à côté du grand rêve du peuple élu. Ce fut Casablanca, de la tribu des Maghrébins, qui prit l'initiative de rompre le silence.
« Retournons à Eliane, nous n'avons plus rien à faire ici. »« Que dirons-nous aux abîmes, à l'ancien et au prince ?» demanda Bruxelles de la tribu des Benelux. « Ce sera à eux de nous dire quelque chose, » fit Casablanca d'une voix dure, « de nous expliquer pour quelle raison les seuls qui aient pu entrer dans le ventre sacré des Xaxas sont ceux-là même qu'ils ont publiquement maudits, les non-élus, Gox ou Félon. »
Robin de Fart reprend peu à peu conscience. Il ne sent plus ses membres et comprend instantanément qu'il n'en récupérera jamais l'usage. Ce sont désormais des branches pourries, rattachées à un tronc qui ne vaut guère mieux. Quelle importance ! Il est vieux, il est seul, il est mort. Ses épaules, son dos et son bassin reposent sur un matelas chaud et vivant. Se pourrait-il que... Bien que les cils collés les uns aux autres ne facilitent guère les mouvements de ses paupières, il parvient à entr'ouvrir les yeux. Il est environné d'une obscurité opaque, hermétique, et il se demande s'il n'est pas également devenu aveugle. Puisque le sens de la vue ne lui sert à rien, un réflexe le pousse à utiliser le sens du toucher. Mais ses bras inertes refusent catégoriquement de lui obéir. Il entend alors des murmures enchanteurs, des vibrations à l'ineffable beauté. Il est probablement passé de l'autre côté, sur les mondes de l'au-delà. Il hume une odeur écœurante de viande crue et d'insectes broyés. Il se dit que les mondes célestes ne sont probablement pas empestés par semblables puanteurs. Des gouttes froides s'écrasent sur son visage, sur son torse, sur son ventre, sur ses cuisses. Il entrebâille la bouche et certaines éclatent sur ses lèvres, sur sa langue. L'eau, délicieusement fraîche, coule dans sa gorge. L'eau, le métabolisme d'Exaxas. Il devine alors qu'il se trouve dans le compartiment intérieur d'un migrateur céleste. Se demande par quel miracle il a pu échouer là. Lorsqu'il a perdu connaissance quelques minutes ou quelques heures plus tôt, il mourait de froid dans le cirque des pleurs. Il avait tenté, en compagnie de San Francisco et de Phoenix, d'insuffler de la vie dans le corps bleu de Jack, mais leurs efforts n'avaient pas été couronnés de succès. De guerre lasse, il s'est laissé tomber dans la neige et a sombré dans une nuit noire où ne luisait aucune étoile. Marty l'a-t-il aidé à se glisser dans l'orifice sacré d'un Xaxas? Cela ne ressemble guère au fils que le destin a placé sur sa route et qui, peu à peu, révèle sa véritable nature. Un monstre d'abjection, d'égoïsme et d'indifférence. N'est-ce pas ce qu'a tenté de lui dire Jack dans le vaisseau du globe? Aveuglé par ses sentiments paternels, Robin n'a pas voulu écouter le petit angeorien. Il le regrette à présent. Les gouttes d'eau tombent régulièrement dans la bouche du vieux Syracusain, comme si le migrateur céleste avait compris que son parasite n'a plus la possibilité de bouger et qu'il avait instantanément intégré cette donnée. Une gangue de bien-être enveloppe Robin, dont l'esprit est éveillé comme jamais. La vie chassée de ses membres s'est réfugiée dans son cerveau. Les sons enchanteurs se transforment tout à coup en une voix grave, parfaitement audible. Le véhicule spatial ne se contente pas de fournir les indispensables éléments à la survie de son passager. Il lui délivre également, dans son langage, les messages, les informations qu'il a envie ou besoin d'entendre.
Je te transporte vers ton ultime demeure, car tel est ton désir. Je viens d'un monde au bord de l'univers, si lointain qu'il me faut plusieurs milliers d'années pour parcourir la distance qui les sépare de tes mondes. Et pourtant, je me déplace à une vitesse tellement supérieure à celle de la lumière. Je vole à des allures que tu ne peux concevoir. J'utilise des énergies qui te sont inconnues. Je suis un semeur de vie. Je transporte d'un monde à l'autre des créatures pour favoriser les échanges, comme les vents et les insectes mêlent les pollens pour les nouvelles fécondations. Il y a 8000 de tes années, j'ai transporté un humain dans mon compartiment. Il désirait revoir son monde d'origine. Une petite planète bleue d'un bras de cette galaxie, troisième planète d'un système à une étoile. Ses pensées l'ont trahi, et il est mort pendant le voyage. Je sais que la mort t'attend aussi. Je n'aime pas transporter les morts, car je suis un semeur de vie. Il y a très longtemps, j'ai transporté des dieux qui souhaitaient explorer leur création. Quand je t'aurai déposé, je repartirai pour un nouveau périple. J'irai là où je trouverai un autre passager, un autre parasite. Et je planterai une nouvelle graine où la vie ne s'est pas déployée. Je suis un semeur de vie, mais je t'emmène vers la mort, puisque la mort est la vie que tu as choisie. Je suis d'un âge dont tu ne peux avoir idée. Je suis ce que tu appelles un immortel. Tes membres sont morts parce que tu es là de la vie, parce que tu as marché trop longtemps, parce que tu n'as pas de fils, parce qu'est venu pour toi le temps du repos. Jouis de ton séjour en moi. Je suis ton transporteur, ton serviteur. Mes frères et moi sommes passés par le satellite glacé d'une planète d'un système à quatre soleils parce que nous pensions que des milliers de parasites voulaient émigrer vers un monde bleu. Combien étiez-vous? 4, peut-être 5. Nous avons perdu du temps. Il y a des milliers de vies à planter. Nous sommes des semeurs de vie. Avant toi, j'ai transporté une chenille de feu. Je l'ai capturée sur une planète entièrement composée de magma liquide et chaud. Elles sont redoutables, féroces. Elles cherchent à nous grignoter de l'intérieur et nous devons les enfermer dans des cocons. Mais voilà justement pourquoi elles nous grignotent, pour nous obliger à créer leur cocon de métamorphose. Elles sont plus intelligentes que nous. Repose-toi, jouis de ton séjour en moi. Et Robin fait ce que lui conseille le Xaxas. Il referme les yeux, se laisse flotter dans l'euphorie qui le gagne. Il entend alors un chant apaisant. Le migrateur prend la voix de sa mère pour lui fredonner un vieil air siracusain. « Je suis un semeur de vie, » dit le Xaxas à Phénix. « Je te transporte là où se rend l'homme de tes pensées, car tu vis pour lui et tu vas où il va. Tu as besoin de lui pour te sentir femme, et il a besoin de toi pour se sentir homme. Et votre fusion est aussi porteuse de vie. J'ai autrefois transporté une femme. Elle fuyait un homme qui voulait la tuer, et elle avait la haine dans le cœur. Je l'ai déposée sur un monde qui pouvait subvenir à ses besoins. Je suis repassé récemment sur ce monde, et j'ai su qu'elle avait engendré une forme de vie avec des principes masculins, qu'elle avait donné naissance à des créatures à la peau rugueuse et aux yeux globuleux. Je l'ai su parce que j'ai transporté l'une de ces créatures sur un monde habité par les hommes. Elle avait l'âme vide et noire, et j'ai compris qu'au lieu de semer la vie, j'avais porté la mort. Tu penses à ceux que tu as abandonnés et tu souffres. Ne souffre pas, jouis de ton séjour en moi. Je suis ton transporteur, ton serviteur. Nous pensions trouver des milliers de passagers sur ton monde, le satellite de glace. Pourquoi n'étiez-vous que 5? Je vois en toi des prêtres à l'âme noire et vide, des semeurs de mort identiques à la créature que j'ai transportée. Je vois des cœurs remplis de haine, des mains qui te griffent le visage, qui t'arrachent les tissus de la peau. Nous ne repasserons plus jamais sur ton monde. 5, c'est trop peu. Nous préférons semer des milliers de fois. Peut-être seront-ils 140 000 dans 80 de tes siècles. Peut-être, mais nous ne prendrons pas le risque. Notre monde est une porte, et notre mère la gardienne de la porte. Au-delà commence le non-univers, l'incréé. Notre mère nous envoie pour favoriser les échanges de vie entre les mondes. Mais si tel est le désir de nos passagers, nous favorisons les échanges de mort. Ce n'est pas à nous d'en décider. Nous ne sommes que des miroirs de l'âme, des transporteurs, des serviteurs. Nos capteurs d'énergie nous permettent d'atteindre des vitesses que l'esprit humain ne peut imaginer. Ce ne sont pas des cristaux, mais des concentrés de lumière, des parcelles de puissance créatrice dérobées aux dieux. Je ne ressens pas la nécessité de respirer, ni celle de boire ou de manger, mais je comprends ta nécessité de respirer, de boire et de manger. La chenille de feu que j'ai transportée avant toi avait besoin de manger, mais non respirer. je lui ai fabriqué un cocon pour l'empêcher de me dévorer de l'intérieur. À toi, je fournirai l'eau et l'oxygène jusqu'à la fin du voyage. Ainsi sont les êtres vivants de l'univers, parfois semblables, parfois différents, parfois morts, parfois vivants, parfois mâles, parfois femelles, parfois mâles et femelles, parfois ni mâles ni femelles. Si tel est ton désir, je serai l'homme que tu aimes. Jouis de ton séjour en moi. Et des ondes d'un plaisir indescriptible se diffusent dans le corps de Phénix. Elles prennent naissance entre ses cuisses, dans ses nymphes, se répandent avec une lenteur suave dans son bas-ventre, escaladent les tendres collines de sa poitrine, meurent sur les pointes dressées, délicieusement douloureuses de ses seins. Puis les ondes renaissent et le cycle se renouvelle sans interruption, précipitant Phénix dans des gouffres d'extase où elle se dissout corps et âme dans le souvenir de San Francisco. Les os de tes jambes se sont brisés sous mon poids, dit le Xaxas à San Francisco. Ta souffrance est aussi vive qu'est grande ta générosité. Je suis ton transporteur, ton serviteur. Je suis un semeur de vie, l'enfant de la gardienne de la porte de l'univers. Les tiens t'ont banni parce qu'ils ne supportaient pas de se contempler dans le miroir que tu leur tendais. Les tiens n'avaient pas l'envie réelle de quitter leur monde de glace. Leur livre sacré n'était qu'un prétexte. Tu es dans le vrai, et ils ne l'ont pas toléré. Ceux que tu appelles Abin ne désirent qu'exercer leur pouvoir sur leurs fidèles. Voilà pourquoi vous n'étiez que cinq à nous attendre. Ainsi me l'ont précisé mes semblables. Nous ne parlons pas, mais contrairement à ce que croient les humains, il n'est point besoin de parler pour communiquer. Voici de cela plus de 8000 de tes années. J'ai transporté un homme banni, rejeté par son peuple, comme toi. Je l'ai déposé sur une planète d'une autre galaxie, là où ses idées étaient susceptibles de favoriser la vie. Tel est le destin des visionnaires, de ceux qui ont eu trop tôt raison. Ceux qui ne veulent pas entendre, exilent, brisent, ou exploite ceux qui connaissent les lois fondamentales de la création. Notre mère nous a engendrés pour servir, pour semer la vie. Notre mère, la gardienne de la porte, est écartelée entre l'incréé et le créé, entre le vide et le plein, entre le froid et la chaleur. Ne souffre plus de tes jambes. Jouis de ton séjour en moi. Pense à cette femme que tu aimes, la femme qui t'a attendu pendant 20 années, la femme avec laquelle tu as tant souhaité t'unir. Je te déposerai là où elle sera déposée, afin que vous puissiez respirer le même air, afin que vous puissiez fusionner et semer la vie. Elle est ton autre toi-même. La part qui te manque. Moi, je suis un principe neutre, un simple transporteur, un serviteur. Sais-tu que tes pensées maintiennent l'univers en ce moment même? Sais-tu que tes pensées sont des étincelles d'intelligence créatrice qui empêchent l'incréé de se déployer? Tant que tu es, l'univers est. Ton amour pour cette femme crée des milliers d'étoiles. Tel est le pouvoir extraordinaire des hommes. L'amour est l'énergie ultime. Je ressoude maintenant les os de tes jambes, car je veux que tu jouisses sans entrave de ton séjour en moi. Je vogue à travers l'immensité sidérale, au maximum de ma vitesse. Une vitesse 10, 20, 30, 100 000 fois supérieure à celle de la lumière. L'énergie est abondante au cœur de l'espace. Mes fragments de lumière concentrée que tu appelles des cristaux brillent d'une énergie supérieure à celle des plus grandes étoiles. Je ne vois pas, je n'entends pas, je ne sens pas, je ne touche pas, je ne goûte pas, mais je chante et resplendis de lumière. Tes os sont maintenant ressoudés. Jouis de ton séjour en moi. Pense à la femme que tu aimes, et je serai cette femme jusqu'à la fin de ton voyage. Et San Francisco s'enfonce corps et âme dans un océan de délices. Non seulement le migrateur céleste lui offre l'eau et l'air, mais il parle, ou plus précisément, il module les sons mystérieux, homophoniques, de manière à ce qu'ils forment des mots, des phrases, des chants, des pensées sonores. Toute douleur a déserté les jambes du Gersalémine. Quelques heures plus tôt, s'agissait-il bien d'heures? La notion de temps a-t-elle cours dans le ventre du Xaxas? Il s'est évanoui de souffrance dans le conduit. Il a repris conscience dans le compartiment et il a cru un moment qu'il avait perdu ses jambes, broyé par le poids de son véhicule spatial au moment de l'introduction. La puanteur qui règne à l'intérieur du Xaxas se transforme tout à coup en une délicieuse senteur poivrée, musquée, l'odeur intime de phénix. Tu es mon parasite, comme l'autre est ton parasite, dit le Xaxas à Marty. Je suis ton véhicule spatial, comme tu es le véhicule corporel de l'autre. J'ai été engendré pour être un transporteur, un serviteur. Mais toi, tu es un être source, un créateur, un dieu oublieux. Si l'autre t'a choisi pour accomplir son œuvre, c'est que tu as renoncé à ton statut, que tu t'es renié. La chenille que je renfermais avant toi a voulu me dévorer, mais je l'ai emprisonnée dans un cocon où elle a pu achever sa métamorphose. L'autre t'a dévoré l'esprit, et tu n'as pas cherché à te défendre. Tu n'as pas su t'adapter. Je te déposerai sur le monde que l'autre a choisi pour toi, car tes désirs sont ceux de l'autre. L'autre est un envoyé de l'incréé. Le non-univers tapis derrière la porte dont ma mère est la gardienne. Le dessein de l'autre est de semer le néant, la non-vie. Or, je suis un semeur de vie. Tu ne peux jouir de ton séjour en moi, car l'autre ne t'accorde pas le droit à la jouissance. Toutefois, je t'offre l'air et l'eau, car je me dois de préserver ton corps. Ainsi suis-je conçu. Ce faisant, j'ai conscience de servir les intérêts de ton parasite. Mais je ne juge pas. Je ne suis qu'un instrument du destin. Sache pourtant que tu es un humain, un être qui peut infléchir le cours des choses à tout moment. À chaque seconde de ta vie, tu as le choix. L'autre n'est rien puisqu'il est le fils du néant, une non-créature. Il veut neutraliser ceux que tu appelles guerriers du silence, les êtres sources qui luttent contre l'avènement de l'incréé. En lui je lis comme en toi, car je suis un miroir fidèle, un révélateur neutre, un amplificateur des pensées. Les pensées de l'autre n'ont pas un millième du pouvoir de tes pensées. N'as-tu donc personne à chérir? Ne te souviens-tu pas de la jeune fille que tu aurais pu aimer? Ne l'as-tu pas regrettée lorsque tu t'es glissé dans la machine de transport instantané, que tu t'es retrouvé dans la grande cité de métal? Ne te souviens-tu pas de ton père, de ta mère, de tes amis? Pense à eux. Pense au petit garçon que tu as réchauffé de ton corps sur la glace du satellite. Tes émotions, tes sentiments, te reconnecteront peut-être à ta véritable nature. Si ton désir est plus fort que la volonté de l'autre, alors je te servirai. Que ton potentiel d'amour se montre supérieur au potentiel de haine de l'autre, et je te servirai. Ton parasite s'est retiré dans les profondeurs de ton esprit. Il a peur de moi, il a peur de toi, il a peur de toutes les ondes, de toutes les formes, des infimes pulsions de chaleur qui créent la vie. Profites-en. Que décides-tu? Il n'est pas trop tard. Là où je vous déposerai, ton parasite et toi, vous attend une petite boîte en fer. L'autre en connaît les coordonnées exactes, la combinaison chiffrée du code d'ouverture. Cette boîte renferme une arme double. Une pour ceux que tu appelles guerriers du silence, une pour toi. Car l'autre, lorsqu'il aura rempli la mission pour laquelle il a été conçu, scellera définitivement ton sort. Tu ne lui serviras plus à rien. Il finira de t'effacer et ton âme sera à jamais dispersée au vent du néant. Les mots ou les pensées sonores du Xaxas glissent sur Marty comme des songes. Il ne parvient pas à appréhender la réalité de ces sons murmurés, chuchotés, fredonnés, qui semblent provenir à la fois des parois du compartiment intérieur du migrateur céleste et des profondeurs de son esprit. Il croit deviner que quelqu'un le met en demeure de choisir. Mais choisir quoi? De quelle jeune femme parle-t-on? De quel père? De quelle mère? De quels amis? De quel petit garçon? De quelle boîte? Tout cela a-t-il un sens? L'âme du jeune Syracusain est un gouffre déjà battu par les vents du néant. La chenille de feu s'approche avec circonspection de l'autre parasite, dont le métabolisme s'est ralenti, signe qu'il est entré dans une nouvelle et longue phase de repos. Ses antennes frémissent d'allégresse. Elle s'est introduite dans le corps du migrateur céleste en même temps que sa sœur jumelle. Comme elles étaient toutes les deux de petite taille, elles sont issues du même œuf, et qu'elles se sont entrelacées pour se faufiler dans l'orifice, le transporteur n'a pas remarqué la différence. Une fois dans le compartiment central, elles ont attendu qu'il décolle, qu'il s'envole vers d'autres mondes. Puis la sœur s'est montrée la plus autoritaire, la plus virulente. Elle a commencé à grignoter la chair molle, gorgée d'un liquide visqueux, odorant, et à coups d'antenne, a interdit à sa jumelle d'en faire autant. Les chenilles de feu dévorent à peu près tout ce qui leur passe devant la bouche. Une ouverture horizontale aux bords tranchants comme des lames, y compris les minéraux qu'elles broient avant de les ingurgiter. Le migrateur s'est immédiatement défendu de l'agression en sécrétant des filaments de bave gluantes, résistantes, puis en tissant un cocon autour de l'affamé. L'instinct de la deuxième chenille lui a soufflé qu'il n'accepterait probablement pas de fabriquer un deuxième cocon, qu'il l'éliminerait s'il s'apercevait de sa présence. Elle est donc restée sagement immobile, clandestine, et elle a programmé son corps en ralentissement prolongé de ses fonctions vitales, ce qui, sur d'autres mondes, pourrait se traduire par le mot « hibernation ». Le conduit du compartiment s'est subitement ouvert et un flot de lumière aveuglante l'a réveillée. Toujours immobile, Elle a vu les contractions musculaires du transporteur expulser le cocon de sa sœur. Elle a planté ses innombrables pattes dans le plancher de chair pour ne pas être emportée dans la tourmente. Puis, un autre parasite, recouvert d'une peau soyeuse, lisse, et d'une touffe de poils à l'une de ses extrémités, s'est introduit dans le compartiment. Elle n'a pas bougé, l'a laissé s'installer. Elle ne voulait pas trahir sa présence, être éjectée avant sa métamorphose. Elle reste avant tout une fille du feu, une créature qui doit recevoir ses ailes pour s'envoler vers un astre chaud et brillant. Elle a donc fait preuve de patience, a réfréné son envie de se jeter sur le nouveau venu pour le grignoter. Il ne représente pas vraiment un danger. Ils peuvent très bien cohabiter car il n'a pas les mêmes besoins qu'elle. Mais au sortir de son ralentissement, elle est affamée. Et, avant de s'attaquer à la chair du transporteur et de se retrouver prisonnière d'un cocon de bave solidifié, elle veut absolument reconstituer ses forces. L'odeur qui s'exhale de ce corps aux quatre membres allongés, eux-mêmes terminés par cinq membres plus petits, lui aiguise l'appétit. Au début, lorsque s'est refermé le conduit et que s'est envolé le migrateur, le nouveau parasite a bougé, a émis des sons criards qui l'ont effrayé. Elle est restée tapie dans l'ombre, en phase de camouflage. Elle a occulté la brillance de son enveloppe extérieure en refermant ses volets, des pans de carapace opaque qui se nichent dans les multiples replis de ses anneaux et s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. C'est de cette manière que les chenilles de feu échappent à leurs principaux prédateurs, les scarabées géants des couronnes stellaires. Faites d'un mélange de lave en fusion et de tissu cellulaire, elles cessent soudain de luire, et les grands coléoptères ne parviennent plus à les localiser. De l'autre parasite, elle ne connaît rien. Elle n'en a jamais vu de semblable sur son monde d'origine. Elle s'est donc méfiée et a pris le temps de l'observer. Elle a fini par constater qu'il perd lentement de son volume et qu'il ralentit son métabolisme à intervalles réguliers. Pendant ces instants-là, il ne bouge plus, hormis de brusques sursauts qui le jettent d'un côté sur l'autre. Il n'émet plus aucun son. Son odeur subtile change, devient plus âpre, plus musqué. De temps à autre, des jets d'un liquide parfumé, acide, jaillissent d'une petite excroissance flasque située au bas d'une large plaine de peau, entre deux membres cylindriques et articulés qui ressemblent à des pattes géantes. Elle a eu l'audace de goûter à cette mixture, et lui a trouvé un goût agréable, presque aussi agréable que la saveur des fleurs de magma, sa nourriture favorite. L'autre parasite a ralenti son métabolisme depuis un bon moment. Elle a donc décidé de passer à l'offensive. Elle doit impérativement l'empêcher de réagir, de se défendre, et pour cela, interrompre immédiatement ses fonctions vitales primordiales. À force de l'observer, elle a compris que pour survivre, il lui faut inhaler le gaz filtré par les sacs poreux accrochés sur les parois du compartiment. Voilà pourquoi le transporteur les a gonflés avant son décollage. Son nouveau passager ne peut pas s'en passer. Elle a repéré les deux petits trous situé sous un renflement oblong par lequel le gaz entre et sort de son corps. Parfois également, il transite par un orifice plus large, ordinairement fermé mais qui s'ouvre de temps à autre pour libérer d'horribles sons. Elle n'aura donc qu'à boucher ses trous et l'autre, privé de son précieux gaz, ne pourra plus se défendre. Son métabolisme atteindra le degré zéro, le moment où il entamera son refroidissement. Les chenilles de feu, quand elles atteignent le degré zéro, se transforment rapidement en cendres froides. Elle le grignotera avec l'avidité caractéristique de celle de sa race. A-t-elle tout prévu? Le meilleur moyen de le savoir, c'est d'essayer. Elle n'a que trop patienté. Les bords aiguisés de sa bouche la démangent, les lancent. Elle commande le retrait de ses volets de camouflage. Ses anneaux luisent d'allégresse, jettent des éclats flamboyants sur le capiton de chair brune, sur la peau claire du parasite engourdi. Elle s'ébranle, se glisse hors de sa niche. Lentement, avec toute la légèreté dont elle est capable, elle pose les premières de ses innombrables pattes sur le flanc de peau soyeuse, escalade les reliefs. Elle est pratiquement aussi longue et aussi large que lui. Elle se dirige vers le sommet rond, surmonté de la touffe de poils, là où elle a localisé les orifices d'inhalation. Tout va bien. Sa proie n'a rien senti, n'a pas bougé. Une fois qu'elle est arrivée sur le sommet rond, elle s'enroule sur elle-même et se colle comme une ventouse sur les reliefs. Le gaz ne peut maintenant plus passer. Une sensation d'étouffement réveille Jack en sursaut.
« Je suis ton serviteur, ton transporteur, » dit le Xaxas. « Si tu veux jouir de ton séjour en moi, défends ta vie. »